Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission Au fil des pages, où nous allons feuilleter tellement de pages que ça va nous tenir des mille et une nuits sans doute, puisque c'est la nouvelle édition qui vient de paraître dans la collection La Pléiade, des mille et une nuits que j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter en présence de monsieur André Miquel. Je dois préciser qu'il s'agit pour l'instant du premier tome et que ça ne va que des nuits de 1 à 327. Monsieur Miquel, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Academy. Je voudrais préciser que vous étiez professeur au Collège de France et ancien administrateur de la Bibliothèque nationale. Et vous avez donc accepté de traduire, présenter et annoter une nouvelle édition de ce manuscrit qui nous fait tous rêver, Les Mille et Une Nuits, dont on va parler aujourd'hui. Monsieur Miquel, si j'ai bien compris, vous avez commencé à traduire et à travailler sur ce texte en 1991. Nous sommes en 2006, ça fait donc plus de 14 ans que vous êtes au travail. C'est si important que cela ?
C'est très important. Il faut dire que mon ami Jamaleddine Benchère et moi, nous avions aussi d'autres préoccupations universitaires et de recherche. Mais il est vrai que c'est une longue entreprise. Mais quand on parle de mille et une nuits, on ne mesure plus le temps.
Voilà, heureusement pour vous alors. Vous avez donc là sorti en 2005, fin 2005, ce premier tome, il y en aura trois, donc des mille et une nuits. Vous faisiez allusion à monsieur Jamaleddine Benchère. Vous pouvez nous en dire un petit mot ? Il travaille avec vous sur cette traduction ?
Oui, c'était un très vieil ami, algérien de naissance, arabisant, et ce qu'on sait moins, poète et grand poète de langue française. Et j'avoue que depuis bientôt un an, face à ce trésor exigeant des mille et une nuits, je me sens parfois un peu seul.
La première évocation des mille et une nuits dans l'histoire, ça commence quand ? À partir de quelle époque commence-t-on à parler de ce texte ?
Alors, il faut distinguer l'époque où on commence à les voir et l'époque où on commence à en parler. Celle où on commence à les voir, c'est la fin du 8e siècle de notre ère, sous la forme, hélas réduite, de trois feuillets d'un manuscrit qui comporte le titre et le début de ce que nous appelons le conte-cadre, c'est l'histoire de Scheherazade, la mise en place de l'histoire de Scheherazade. Après, nous avons des témoignages de personnes qui ont lu le texte des Mille et Une Nuits au Xe siècle. Et après, dans les lettres arabes, pratiquement plus rien.
Plus rien, un trou ?
Plus rien, un trou. Jusqu'à leur redécouverte, mais en France, au début du XVIIIe siècle, grâce à mon illustre prédécesseur au Collège de France, je veux dire Antoine Galland.
Alors justement, dans la préface de cette édition de La Pléiade, monsieur André Miquel, vous dédiez votre préface à la mémoire d'Antoine Galland. Alors j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu. Donc il a découvert un manuscrit d'origine syrienne, si j'ai bien compris, des mille et une nuits.
Oui, on n'a pas assez rendu justice à Galland, qui était une espèce de saint de la science et de la recherche, né dans une famille nombreuse de la campagne de la Somme, près de Montdidier, repéré par les ecclésiastiques du coin, transfert au collège, puis Paris, une carrière d'érudit et de savant, un voyage à Constantinople auprès d'un ambassadeur, et un homme féru d'érudition et ne vivant vraiment que pour la recherche. Et je dis souvent que cet homme à qui on a présenté dans ce fameux manuscrit, hélas tronqué, mais enfin, qui a eu donc le premier Européen à avoir eu sous les yeux un texte des Mille et Une Nuits, que se serait-il passé s'il avait eu une réaction de savant au sens caricatural du terme? Si c'était dit, ça n'est pas de la littérature intéressante, pour moi qui suis historien, numismate, etc., etc. S'il avait rejeté le manuscrit et s'il l'avait laissé dormir à la Bibliothèque royale, qui sait si aujourd'hui, vous et moi, nous parlerions des mille et une nuits? Peut-être pas.
Parce qu'à partir de ce manuscrit donc, qu'a traduit M. Antoine Galland, il a été fait de nombreuses autres traductions, presque toutes les traductions des Mille et une Nuits.
Pas toutes, parce qu'il y a eu plusieurs manuscrits, mais le sien en tout cas est le plus ancien, jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est surtout à partir de la traduction de Galland que le phénomène s'est produit, et tout de suite, et avec un emballement dont nous n'avons pas idée. Moins au départ d'ailleurs en France qu'en Angleterre. Et à partir de l'Angleterre, la diffusion déjà vers l'Amérique. Et après, les traductions dans toutes les langues que l'on peut imaginer.
Alors, André Michel, on sait que les Mille et une Nuits, ce sont des histoires et des contes que Scheherazade ou Shahrazade raconte au roi pour éviter d'être tué au matin, n'est-ce pas? C'est le thème qui lui permet de raconter mille et une histoires. Mais peut-on dire qu'il y a un auteur aux Mille et une Nuits?
Certainement pas, puisque les deux savants auxquels je pense, bon, je dis les noms, Masrudi et Ibn al-Nadim, au Xe siècle, donnent le livre comme d'auteur inconnu. Donc il n'y a pas d'auteur.
Mais ça veut dire que ça a été une compilation de traditions orales?
Oui. Enfin, orales, on ne sait pas. Écrites et orales, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'était très à la mode à cette époque du califat de Bagdad, à la belle époque des 8e, 11e siècle, mettons. On était très friands d'histoires qui venaient notamment de l'Inde, qui avait transité par la Perse et ensuite traduite en arabe et au passage aussi islamisée, c'est évident. Donc les Mille et une Nuits ne sont pas en soi un phénomène isolé. Il y a un fameux recueil de fables, les fables de Kalila et d'Imna, qui sont la version arabe des fables de Bidpai, dont on trouve des traces jusque chez Notre La Fontaine. Il y a une prétendue, nous n'avons pas de traces, correspondance d'Alexandre. Il y a le livre de Sindbad, pas le marin, Sindbad le sage. Bref, toute une littérature qui a transité depuis l'Inde par la Perse jusqu'aux rives du Tigre.
Donc on ne peut pas dire que les Mille et une Nuits, c'est un manuscrit arabe.
Il est arabe puisque maintenant la version que nous en connaissons est arabe, mais à l'origine non. Encore que, il faut dire tout de suite, j'anticipe peut-être sur les questions que vous me poseriez, le livre que nous lisons n'est pas le même que celui que mes deux auteurs du Xe siècle ont lu. Pourquoi? Parce que au fil des âges, il est évident que des contes ont été retirés du recueil, d'autres mis à leur place, et que je parlais tout à l'heure du premier témoignage manuscrit du 8e siècle, mais certains contes des Mille et une Nuits ne promènent jusqu'au 16e siècle. Donc où sont les véritables Mille et une Nuits? Personne n'en saura jamais rien.
Grande énigme. Alors, André Michel, quand vous expliquez le travail que vous avez fait sur ces Mille et une Nuits, vous vous dites que vous vous êtes heurté à trois difficultés majeures. La première de ces difficultés touche au statut de cette œuvre. Cette œuvre, les Mille et une Nuits, ça n'est pas si populaire qu'on le dit. Est-ce véritablement des contes qu'on se racontait de manière orale et est-ce que c'est une littérature populaire?
Oui et non. Au départ, lorsque les Arabes du Xe siècle nous parlent des Mille et une Nuits, je vais sans doute vous étonner, mais ils nous en parlent comme d'une littérature moralisante, arrangée avec les fables, la correspondance d'Alexandre, etc. Mais très vite, à 30 ou 40 années près, entre, mettons, le premier tiers et le dernier tiers de ce fameux Xe siècle, on sent que les choses basculent et qu'on commence à avoir des préventions contre cette littérature parce que, selon les normes de la pédagogie du temps, qui veut que pour qu'on fasse passer un contenu, on détend de temps en temps l'atmosphère, ce qui est la règle d'or de la prose arabe à l'époque classique, devant les Mille et une Nuits, on nous laisse entendre que tout de même, la balance penche un peu trop du côté du plaisant et un peu moins du côté du sérieux. Ce qui explique sans doute l'éclipse assez rapide et brutale des Mille et une Nuits.
Oui, c'est une éclipse qui a tout de même duré 8 siècles. Oui. C'est-à-dire, pendant 8 siècles, on n'a plus entendu parler de ce manuscrit. Alors, cette espèce de traversée du désert, comme vous dites, comment est-ce que vous la justifiez? Comment on l'explique?
Alors, au départ, par des préventions. Parce que, dans la littérature arabe classique, quand on parle littérature, c'est-à-dire un minimum de travail sur le style et liberté pour une personne de s'exprimer totalement, y compris impudiquement. Quand on parle littérature, c'est de poésie que l'on parle. La prose, c'est une chose sérieuse. On dit « je », non pas en tant que personne, mais comme témoin quand on fait de la prose. On dit « je » parce que j'ai vu ceci, je conteste cela, j'ai appris ceci, je dois transmettre cela, etc. Alors, ce statut des mille et une nuits, il est hybride. C'est de la prose, mais qui enseigne quoi ? Qui raconte, en fait. Et en plus, c'est une prose où sont intercalées pas mal de prose rimée. Et la prose rimée, ça se réfère à un modèle à la fois tabou et insurpassable, celui du Coran. Donc c'est dangereux de faire de la prose rimée, et surtout de la poésie. Alors, je pense que dès le départ, à cette époque, le 10e, 11e siècle, on n'a pas trop su où on allait face à ce trésor. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on l'ait conservé ? Alors, ma théorie est qu'il a été conservé en Égypte, ça c'est à peu près sûr. Oui. Ma théorie est la suivante, c'est que le monde arabe, et cette fois je ne parle pas de monde musulman, je parle de monde arabe. Les Arabes ont été les maîtres de l'initiative historique, en gros, depuis l'apparition du Coran, depuis le milieu, mettons, du 7e siècle, jusqu'au milieu du 11e. Et encore, les Iraniens déjà venaient leur disputer le pouvoir politique. Au 11e siècle, apparaissent les Turcs, qui mettent en tutelle le califat de Bagdad. Je passe sur les croisés, ça n'était pas rien, et au XIIIe siècle, les Mongols qui détruisent définitivement le califat abbasside. Ce qui fait que le monde musulman se retrouve décapité, et le monde arabe voit ses frontières, les frontières de sa culture, régresser peu à peu depuis la mer d'Aral, où il y avait des centres de culture arabe prodigieux, jusqu'aux rives du Tigre. Je me demande si, après le XIe siècle, il n'y a pas eu un phénomène de peur latente, dont on pourrait trouver des traces chez Ibn Khaldoun, le grand historien philosophe de l'histoire, qui nous dit que les civilisations peuvent être mortelles. Chez un autre écrivain, un géographe voyageur, celui-là, qui s'est promené dans tous les pays du monde où il savait trouver de l'islam, et uniquement dans cela, jusqu'à la Chine, au comptoir de l'Afrique orientale, l'Afrique subsaharienne, etc. Peut-être comme pour se rassurer. Alors, je me demande si, dans cette Égypte d'après le XIe siècle, on n'a pas procédé à un enregistrement fébrile du savoir, y compris de ceux qui, entre-temps, n'avaient plus été jugés dignes de la sanction par l'écriture et de la conservation par l'écriture. Alors, un témoignage, s'il se peut, au début du XVIe siècle, un écrivain égyptien qui s'appelle Suyuti, meurt au moment où les Ottomans arrivent en Égypte, date cruciale. Cet homme qui meurt à 53 ans, en, mettons, 30 années d'exercice du métier d'écrivain, je devrais dire plutôt de scribe, aligne 560 titres d'ouvrages. Certains très brefs, mais certains en plusieurs volumes. Des ouvrages qui sont des compilations, où il ajoute de son cru, mais qui reprennent, en fait, le trésor de la littérature écrite en arabe. Alors, c'est une thèse, hein. je n'ai pas trouvé jusqu'à présent de texte formellement décrit là-dessus. Je pense que c'est dans ce cadre d'inquiétude pour l'avenir que l'on a conservé, je me redis, ce qui, peut-être, n'avait pas été tenu pour de la littérature, jusqu'alors.
Est-ce que dans cette traduction que vous avez faite, André Michel, des Mille et Une Nuits, vous avez rencontré des difficultés d'ordre linguistique ? Est-ce que la langue elle-même a posé de gros problèmes ?
À la vérité, non. C'est de l'arabe classique, assez simple, avec quelques dialectalismes ou quelques, ce que nous appellerions grammairiens, des fautes de grammaire. Une troisième personne plurielle masculin qui joue pour le masculin et le féminin, alors qu'en classique, Les deux nombres sont distincts. Quelques traits dialectaux, ce qui, par parenthèse, nous permet de photographier dans le temps des contes. Quand nous voyons, par exemple, un mot qui est arrivé en Égypte, mais à partir de l'époque, mettons, des Mamelouks, on sait que
datation.
Là, nous sommes vraiment à l'extrême limite du recueil. Non, pas trop, pas de difficultés majeures.
Et j'ai découvert, en lisant aussi votre introduction, que le vers arabe n'était pas du tout semblable aux vers de la littérature française. Alors, comment avez-vous réussi à traduire les vers ?
J'avais déjà une longue habitude. Hein. J'ai pondu 4 ou 5 anthologies de poésie arabe. Et contrairement à certains de mes anciens disciples devenus aujourd'hui braves même, qui conteste ma manière de voir, mais je tiens qu'une poésie qui est jugée classique à son époque doit être rendue de façon classique dans sa langue d'accueil. C'est pour ça que je tiens beaucoup à une poésie rythmée et rimée. Alors rimée, déjà nous trichons, puisque la poésie, le poème arabe ne comporte qu'une rime unique d'un bout à l'autre du poème.
Ah bon ?
Alors, il faut y substituer, quand on prend ce parti, il faut y substituer un système de rimes qui est plus à notre convenance. Plate, rime plate, croisée, embrassée, etc. Là, pour les mille et une nuits, Jamal Eddine, Bencher et moi, nous étions convenus que quand nous sentions que ça pouvait passer dans un alexandrin, en gros, pour 95% des cas, le vers arabe se compose de deux hémistiches dont chacun égale notre alexandrin, à peu près. Donc quand l'alexandrin venait naturellement sous la plume, bon, on lâchait l'alexandrin. Sinon, on se faisait une raison de rendre le sens, sinon la littéralité qui est parfois insupportable, le sens et un minimum de rythme.
C'est tout de même un travail, effectivement, sur l'écriture. Alors, dans ces mille et une nuits, il y a une chose qui peut surprendre, c'est que on fasse, la conteuse fait parler des animaux, parce que je croyais que, justement, dans la tradition arabe, je suppose, on ne fait pas parler les animaux, la parole étant réservée à l'humain, j'allais dire. Alors, comment ça a été possible qu'on fasse parler des animaux? Ce n'était pas interdit?
C'était théoriquement interdit, mais en fait, il y avait le modèle des fables de Bidpa, devenues les fables de Kalila et d'Imna, qui sont un des premiers chefs-d'œuvre de l'arabe classique et qui sont toujours admirés. Et là, ce sont des animaux. Il y a aussi des hommes, bien sûr, dans ce recueil de fables, mais il y a surtout des animaux. Donc, je ne crois pas que ça choquait en tant que tel. On savait qu'on était dans un... Là, avec les mille et une nuits ou avec la fable, dans un monde au-delà, enfin un monde de fiction,
complètement,
et que par conséquent, on ne prétendait pas à surimposer une autre vérité à la vérité du monde réel.
Donc on n'était pas dans le blasphème ou dans le sacrilège?
Je ne crois pas. Non, le sacrilège, essentiellement, pour ce genre de conte, il est dans le refus de croire, évidemment, le suicide et l'inceste. Ce seraient vraiment les trois tabous sur lesquels on ne peut pas passer.
Et le principe du conte, est-ce que dans les mille et une nuits, c'est de développer justement une morale, comme les fables de La Fontaine nous délivrent une morale? Est-ce que c'est le cas dans les mille et une nuits?
Je serais, cela fait deux fois que je vous fais une réponse de Normand, oui et non. Et
je
dirais en effet oui et non.
Pas contre.
À l'origine, j'insiste là-dessus, tout à fait au début, ces contes étaient considérés comme relevant de la littérature morale. Alors, très vite, je pense que plus personne n'était dupe, mais... Il y a tout de même une morale qui est présente. Alors, il y a des morales pour des classes sociales, la morale de la femme, la morale du guerrier, etc., etc. Mais il y a une morale qui est présente d'un bout à l'autre des contes des mille et une nuits. Ça n'est pas que tout finit toujours très bien. C'est que tout finit toujours conformément à la justice et au droit. Alors, des innocents peuvent mourir au passage, mais le mauvais ne triomphe jamais.
Pourtant, il me semble que vous avez écrit, j'ai noté cela, sept contes des mille et une nuits où il n'y a pas de conte innocent.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une leçon dans les contes qui peut être très, tout à fait diverse hein, et qui peut varier en effet selon le public auquel on s'adresse. Mais là, quand je voulais dire innocent, je voulais parler d'arrière-pensée du conteur.
Alors, les mille et une nuits, ça fait mille et une nuits véritablement ou c'est un chiffre symbolique?
C'est un chiffre symbolique qui ne recouvre pas le chiffre des contes. Il y en a, mon Dieu, je devrais le savoir, je l'ai su, mais j'ai lu 375, quelque chose comme ça. Non, c'est un découpage tout à fait artificiel qui allie le prestige du nombre, mille, à celui de l'impair, bon, qui rend le nombre parfait, voilà.
Mais il y a dedans, paraît-il, 1250 poèmes. Alors là, pour le coup, c'est beaucoup.
Oui, mais c'est un monde où on adorait la poésie.
On adorait la poésie.
Et où on écoutait la poésie. Si vous me le permettez, j'ai un vieux souvenir. J'étais allé en Irak il y a très très longtemps, à l'occasion d'un festival, sur un anniversaire, je ne sais plus le combien de siècles, d'un des plus grands poètes arabes. Et un écrivain irakien avait écrit une pièce de théâtre à cette occasion, dont le personnage principal était le poète en question, qui avait une vie assez tumultueuse. Quand l'acteur entamait un poème du poète en question, la salle le reprenait en chœur.
Tout le monde le connaissait.
Et il fallait que l'acteur lève la main pour faire taire le public. Nous sommes dans un monde vraiment où la poésie, qui est la véritable littérature, est vraiment reine et jouit de tous les prestiges.
C'est un peu curieux pour nous aujourd'hui, oui, en Occident, où la poésie a une part si congrue, si faible.
Oui, mais il est vrai qu'en poésie, le poète est un majnoun, c'est-à-dire il est possédé de son djinn, de son propre démon. Et comme l'aveugle, à qui il manque, évidemment, une part essentielle des sensations, et comme le fou, il est d'une façon ou d'une autre intouchable. Ce qui fait que l'un des plus grands poètes arabes, pas celui dont je parlais, un autre, disait « Je me suis tout permis en poésie, sauf le péché de ne pas croire. »
Ah oui.
Tout le reste, y compris l'homosexualité,
c'est libre.
Absolument. Du moment qu'on est poète.
Et ça ne veut pas dire qu'on est inspiré, on considère que le poète est inspiré au sens où on l'entendait dans la littérature classique.
Oui, il est inspiré
classique.
Par son djinn, par son démon personnel.
Ça n'est pas une inspiration qui est divine.
Ah, certes pas.
Non,
pour le poète,
pas.
Je ne crois pas.
Pour le poète, non.
Sauf peut-être si, dans le cas où il écrirait des poèmes à la gloire de la religion. Bon, naturellement, Dieu est exalté de ci, de là, dans les poèmes, du moins dans ce que je connais. Je ne connais pas toute la poésie arabe, mon Dieu, non. Mais non, sinon, c'est un djinn personnel. Ce qui fait qu'aussi, il est donc possédé de son djinn, c'est-à-dire qu'il est Majnoun, qui est le nom qui signifie le fou aussi.
Alors, nous apprenons les noms et les mots. Alors, Scheherazade, d'où vient le nom, d'où vient le mot, puisqu'elle nous compte les mille et une nuits?
Alors, c'est un nom persan. Et en principe, autant qu'on puisse savoir, il y a plusieurs possibilités, cela doit vouloir dire jeune fille de noble naissance, quelque chose comme ça, ou princesse, si vous voulez.
Princesse. Donc, princesse. Ça situe tout de même un milieu dans lequel elle raconte...
Elle est fille de vizir dans l'histoire, c'est-à-dire elle est noble.
Oui, ben on sait que ces contes ne finissent pas au matin et qu'ils restent en suspens. Alors ça, c'est une tactique. Est-ce que c'est une tactique adoptée juste par la conteuse des mille et une nuits ou est-ce que c'est une tactique qu'on retrouve beaucoup dans la littérature arabe en général?
Alors, l'histoire racontée à la nuit, oui, ça fait partie, il y a un mot qu'il désigne, samar, qui veut dire la conversation après le coucher du soleil, tard dans la nuit, etc. Le découpage en conte, on ne sait pas d'où il vient, mais la question que vous me posez permet de revenir à un personnage central qu'on oublie d'ailleurs quand on lit Les Mille et Une Nuits, c'est Scheherazade elle-même. Parce qu'enfin, le roman des Mille et Une Nuits, c'est le roman de Scheherazade. Alors, on peut faire courir son imagination à tout craint. Il y a des nuits très courtes, qui ne tiennent pas dans une page. Il y en a d'autres qui s'étalent sur 5, 6, quelquefois plus de pages. Comment s'est passée la nuit de Scheherazade? Est-ce qu'elle a surtout compté? Est-ce qu'elle a rendu les services que l'on attend d'une mercenaire de l'amour, qui ont occupé cette nuit beaucoup plus que d'autres? On peut rêver.
On peut broder, on peut rêver. Absolument. Je voulais aussi vous demander combien il y avait de traductions en totalité des Mille et une Nuits, qui est une littérature internationale maintenant. Je vois que la dernière traduction, enfin en tout cas celle qui est mentionnée là, en 99, c'est une traduction en bosniaque. Donc
là,
c'est-à-dire que dans toutes les langues du monde, on a traduit
Les Mille et une Nuits. Vous me connaissez, je ne peux pas répondre. C'est Madame Simonval qui a fait, je dirais, l'album des Mille et une Nuits à côté, qui connaît ça sur le bout du doigt, les traductions, y compris les circulations de traduction, les textes retraduits d'après Galland sans qu'on le dise, etc. Enfin, c'est une histoire.
C'est foisonnant. Alors, l'avantage aussi de cette édition des Mille et Une Nuits dans la bibliothèque de la Pléiade, c'est qu'elle offre une très intéressante chronologie, justement, un itinéraire des contes des Mille et Une Nuits, parce que, donc, ça commence au 16e siècle, au 7e siècle, pardon, ça commence au 7e siècle.
8e.
Et oui, enfin là, elle nous met juste le colportage des premiers récits. Voilà. Et puis, donc, au 8e, en effet, la première mise en forme dont vous avez parlé tout à l'heure. Et donc, ça nous permet de nous repérer très facilement. Donc, c'est un des avantages, un de ces outils que l'on offre dans les livres bien faits. André Miquel, maintenant qu'on a le tome 1, quand pouvons-nous espérer le tome 2 et le tome 3?
En principe, les deux ensemble à l'automne, vers le mois d'octobre. Ce qui suppose en effet pas mal de travail d'ici là. Mais nous avions décidé, en accord avec la maison Gallimard, parce que le problème avec les Mille et une Nuits, c'est quel texte prendre. Alors, nous avons pris le texte dit de Boulak Calcutta, ce sont deux textes qui courent presque en parallèle, parce que ce texte a déjà 200 ans, enfin 2 siècles d'existence, qu'il est considéré aujourd'hui dans les pays arabes comme le texte de base, et que, en tout état de cause, nous ne sommes pas prêts de voir une édition critique des Mille et une Nuits. À supposer que l'on ait un jour, dans quelques siècles d'ici, l'ensemble des manuscrits dits des Mille et une Nuits que l'on trouverait sur la planète, il sera, je crois, toujours impossible de faire le tri là-dedans. Et c'est pourquoi j'avais dit dans ma préface, il y a fort à parier que les mille et une nuits resteront longtemps à la littérature universelle, ce que le théorème de Fermat est resté longtemps aux mathématiciens. Mais je parierais plus sur les mille et une nuits que sur le théorème de Fermat, pour ça.
Alors on vous
en
laissera.
Tout cas, nous avons voulu faire une édition commode pour le lecteur, sans l'alourdir de notes, uniquement le minimum de notes indispensables pour que le lecteur, quand il est, c'est le cas de le dire, interpellé par quelque chose qui lui paraît un peu aberrant, compte tenu de ses références, qu'il puisse trouver dans les notes une explication assez simple, par exemple d'un trait de civilisation, de comportement.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, quand on le lit, cet ouvrage de la Pléiade, on a l'impression de lire un roman d'un bout à l'autre. On n'est pas du tout assommé, justement, par l'appareil critique qui existe, mais qui n'alourdit pas la lecture. Alors André Michel, il faut donc vous souhaiter bon courage pour finir cette traduction des Mille et Une Nuits et les deux prochains volumes.
La traduction est finie.
Ben voilà déjà une bonne nouvelle. Et aussi peut-être avez-vous d'autres projets d'ouvrages?
C'est pas trop. Je me suis remis à composer des poèmes en arabe ces temps-ci. Je ne sais pas si...
Pour ne pas perdre la langue alors, pour
oui,
ne pas perdre la main.
Que ça fait longtemps que je n'ai plus pratiqué directement. Mais non, je ne sais pas. Je rêve d'un roman aussi, mais là, je retournerai à mes racines, à mon Languedoc natal. Je ne sais pas trop comment faire.
Bon, donc des projets. Donc j'espère que Canal Académie aura l'occasion de venir reparler de vos projets. En tout cas, André Michel, je vous remercie et je rappelle que ce livre, Les Mille et Une Nuits, que vous avez traduit, présenté et annoté avec Jamel Eddin Bencher, est paru à la Bibliothèque de la Pléiade. Merci, à bientôt.
Merci à vous.